Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du Carnet de région avec les temps forts de l'actualité de la semaine et à venir en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée avec vos radios régionales qui vous proposent au sommaire cette semaine. Le collectif Parents Cantine Terre de Camargue demande plus de bio et plus de produits locaux pour les enfants dans la restauration scolaire. Ce sera un sujet de nos confrères de Delta FM. Et puis restons dans l'école avec la mobilisation contre la loi Blanquer qui se poursuit avec des collectifs qui se mettent un petit peu partout en place en France et également dans le département de l'Hérault, rencontre avec l'un d'entre eux qui a rencontré pour nous les équipes de Radio Pays d'Hérault. Nos confrères de Radio Barthas sont interrogés Viviane, une figure pas négligeable, une figure et qui est les chefs de pôle agro-environnement dans le parc national des Cévennes. Nous verrons en quoi consiste cette fonction. Des bêtes légendaires, des dragons et même des animations, c'est entre autres le menu qui vous attend pour la toute nouvelle édition 6e du nom, le festival Holt, sujet de 48 FM. Et puis en toute fin de magazine, nous resterons dans la culture avec un programme riche qui nous attend pour l'Opéra de Montpellier. Nous le verrons avec Valérie Chevalier qui sera au micro d'Annette Chebarn de RCF Maglonero. Valérie Chevalier, directrice de l'Opéra Orchestre National de Montpellier, Occitanie. Bienvenue, c'est le carnet de région, l'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. En France, les repas servis dans les cantines représentent près d'un tiers de la restauration collective. D'ici 2022, ces restaurants scolaires devront servir au moins 50% de repas tenant compte de l'environnement, dont 20% qui devront être composés d'ingrédients issus de l'agriculture biologique selon la loi votée en juillet dernier. Une grande majorité de parents réclament cette mutation déjà. C'est le cas du collectif de Terre de Camargue, du bio et du local pour nos enfants, reçu par Mélissa Simon.
Le collectif a été créé il y a 2 mois. Il vient tout simplement d'une interrogation de parents, d'un petit groupe de parents qui s'interrogent simplement sur ce que mangent nos enfants à la cantine. Le bio représente environ 20% de leur assiette. C'est pas, pour nous, c'est pas suffisant. Donc, pourquoi ? Parce que les pesticides, parce que les perturbateurs endocriniens, etc., tout ça n'est plus à démontrer. Et nous, en tant que parents, on lutte un petit peu au quotidien contre ça. Nous, nos repas, aujourd'hui, pour nos petits bouts de chou, là, c'est on a du ketchup, des wings de poulet, des feuilletés hot dog, des choses comme ça, ou des pizzas surgelées en entrée. Nous, parents, voilà, on est un petit peu révoltés par rapport à ça, d'autant qu'on demande la provenance de ces produits et qu'on ne les a pas. Nous, enfin, je sais pas, j'imagine que vous, quand vous allez en supermarché, vous avez la possibilité de lire les étiquettes des plats ou des aliments que vous prenez. Nous, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on est parents avec des questionnements et on souhaite apporter des réponses à tout ça. On souhaite surtout avoir une discussion et pouvoir travailler ensemble pour le bien-être de nos enfants.
Vous souhaitez aussi plus de transparence sur les produits que consomment vos enfants, parce que vous le disiez précédemment, vous ne savez pas ce que vos enfants consomment, les enfants ne le savent encore moins. Et vous dénoncez aussi les produits ultra transformés qui sont trop présents, les repas trop sucrés, les manques de produits bruts.
On donne le goût au sucre de nos enfants, les enfants se détournent des fruits et des légumes, en plus de saison, puisque les fruits et légumes ne sont pas du tout de saison. C'est des choses qu'on ne comprend pas.
Aussi, ce qui est important, c'est de savoir que oui, il y a des enfants qui n'ont pas malheureusement dont les parents n'ont pas le temps de faire à manger aussi à la maison correctement. Donc il faut leur faire apprendre à manger certains légumes et certains plats cuisinés. Donc je pense qu'il est primordial qu'effectivement le goût passe justement par les petits et par la cantine dans cet âge-là. Et leur donner à tous le droit de manger bien. Et manger sain, juste au moins une fois dans la journée, au repas du midi.
Vous privilégiez les produits des commerces de proximité?
Ben parce que c'est l'avenir, hein. C'est de faire travailler nos petits producteurs. Faut pas se leurrer. Et puis aujourd'hui, on a quoi? On est en Camargue, on a le riz de Camargue, donc il faut pouvoir l'exploiter. Les taureaux, ici, vous en trouvez partout. Vous avez beaucoup de producteurs, donc je pense qu'il y a des choses comme ça. Je parle pour le riz, la viande, mais après vous avez des producteurs de fruits et de légumes. Il faut aussi commencer à un peu changer notre manière de consommer et éviter de faire venir des petits pois de Chine, de la viande de Roumanie. Faisons d'abord travailler nos producteurs français et notre agriculture locale, ça serait le mieux, quoi.
Il faut aussi savoir que les perturbateurs endocriniens aujourd'hui, c'est une catastrophe pour nos enfants. Donc c'est vrai que les barquettes, c'est un gros souci écologique, bien évidemment, c'est dans nos esprits, mais également la santé de nos enfants
en dépend.
Si on veut vous contacter, vous avez une adresse mail ou un numéro de téléphone à communiquer?
L'adresse mail, donc, c'est collectifbiocantine@gmail.com. On peut aussi nous contacter sur notre collectif Facebook, collectif parents du bio et du local pour nos enfants.
La mobilisation continue contre la loi Blanquer. Des parents et des enseignants protestent contre ce projet de réforme dit pour une école de confiance, adopté notamment en première lecture par l'Assemblée nationale en février. Des collectifs se sont mis en place un petit peu partout, notamment dans le centre Hérault, le collectif des Hauts-Cantons, également autour de Bédarieux, ou encore des parents, enseignants, citoyens du pays Cœur d'Hérault, par exemple. Ce dernier collectif organise d'ailleurs une manifestation le vendredi 24 juin prochain au parc Calmassé, à Gignac. Lors d'un précédent rassemblement organisé à Lodève, le jeudi 9 mai dernier, Radio Pays d'Hérault avait rencontré Juan Lopez, directeur d'école à Saint-André de Sangonis.
Alors, dans ce qui nous inquiète, il y a plusieurs mesures. Cette loi, au départ, a été prévue pour rendre obligatoire la scolarisation des enfants de 3 ans. Nous savons qu'actuellement, en France, 97 à 98% des enfants de 3 ans sont d'ores et déjà scolarisés. Donc cette loi va très peu changer la situation. Par contre, elle va représenter un surcoût énorme pour les collectivités locales, pour les mairies, puisque cette obligation va contraindre les municipalités à payer pour les écoles maternelles privées, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Il n'y avait pas obligation pour elles de le faire. Là, ça va être le cas, ce qui signifie nationalement un surcoût estimé entre 150 et 300 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui nous inquiète, c'est la possibilité offerte de regrouper des collèges et des écoles. Ce regroupement des écoles et des collèges pourra se faire de différentes manières, soit exceptionnellement des élèves de l'enseignement primaire se retrouveraient au collège, mais même sans que ce soit sous cette forme-là, pourrait être un regroupement administratif, c'est-à-dire que les écoles seraient placées sous la direction du principal du collège. Donc une direction éloignée de l'endroit où se déroule l'enseignement, ce qui signifie moins de proximité pour les enseignants, moins de proximité pour les parents, une gestion beaucoup moins proche, beaucoup moins pratique pour tous les usagers.
Et en tant que directeur d'école, ça vous interpelle aussi ?
Alors, en tant que directeur d'école, je serai éventuellement concerné, ou en tout cas mes successeurs, puisqu'il est probable que je ne sois plus en activité à ce moment-là. Mais donc, mes successeurs seraient concernés, puisqu'il pourrait y avoir eu des suppressions de postes de direction tels qu'on les connaît actuellement. Il y aurait un ou plusieurs adjoints au principal du collège, mais qui auraient leurs locaux dans le collège, et qui serait plus spécifiquement chargé de gérer les écoles, mais à distance. Et il n'y en aurait pas un par école. En tout cas, c'est ainsi qu'a été présenté l'amendement à l'Assemblée nationale.
Ça, c'est problématique ?
C'est problématique, encore une fois, pour la vie quotidienne, parce qu'il y a des décisions à prendre quotidiennement, il y a des parents à recevoir au jour le jour, et il y a des contacts permanents avec la municipalité. Donc tout ça se gère au quotidien et sur place. Étant directeur, c'est ma profession, je ne m'exprime pas ici en tant que directeur, je m'exprime en tant que citoyen. Donc actuellement, comme tout citoyen et comme tout fonctionnaire, j'ai le droit à la liberté d'expression du moment que je ne dénigre pas mon administration. Ce qui est le cas, je ne compte pas la dénigrer. Là, je m'oppose à un projet de loi. Pour l'instant, cette loi n'est pas votée, ça n'est qu'un projet. Un projet de loi présenté par un gouvernement. Je n'ai aucune obligation de loyauté, entre guillemets, envers le gouvernement. Je n'ai de loyauté à avoir que par rapport à mon administration. Mais le projet de loi renforcerait les devoirs des fonctionnaires, des enseignants, en leur quelque part en les empêchant de s'exprimer librement comme c'est le cas actuellement. De plus, on demanderait également aux parents, non seulement aux enseignants, mais également aux parents, d'avoir une obligation envers l'éducation nationale, ce qui n'existe pas du tout actuellement.
C'était Julien Lopez, directeur d'école à Saint-André de Saint-Gonis. Une manifestation est donc prévue ce vendredi à 17h15 au parc Calmassé à Gignac. Et une délégation de parents d'élèves et d'enseignants a prévu de rencontrer Jean-François Eliaou, député La République En Marche de la 4e circonscription de l'Hérault. Vous êtes toujours sur votre radio et vous écoutez le magazine régional L'actualité en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, le carnet de région. Voici dès maintenant un portrait que l'on vous propose de l'un des millions de la vaste chaîne qu'est le parc national des Cévennes. Aujourd'hui, on est en compagnie de Viviane qui est chef de pôle agro-environnement. Elle nous raconte en quoi consiste son métier. C'est Radio Bartas qui l'a approché et interrogé.
Je m'occupe avec mon équipe de l'ensemble des missions agricoles du parc. Donc ça va du pastoralisme à l'agriculture bio, à l'apiculture, à la châtaigneraie, aux oignons doux. Donc voilà, il y a beaucoup de l'agriculture est un secteur qui est très important sur le territoire du parc. Voilà. Donc, à notre niveau, on instruit les autorisations agricoles sur le cœur de parc. Donc, toutes les demandes de travaux qui font l'objet de demandes par les agriculteurs sont instruites par les techniciens de l'équipe. Et puis, on a aussi des missions de développement pour accompagner à l'agri-environnement et à l'agroécologie. Donc, par exemple, on anime un réseau pastoral qui est un réseau d'échange entre les éleveurs sur leurs pratiques pastorales pour que chacun s'améliore et puisse monter en compétence dans ses pratiques pastorales, bien pâturer ses milieux, bien les comprendre. On fait un petit peu la même chose aussi sur l'agriculture bio, en organisant des journées techniques pour les agriculteurs du territoire sur les pratiques bio, pour pareil monter en compétences et puis amener de la connaissance sur les pratiques bio. Voilà, et puis après plusieurs missions annexes sur l'apiculture, la châtaigneraie, les oignons doux et tout ça.
Et ça en fait des choses, dis donc. Vous êtes combien dans ton équipe ?
Alors, dans mon équipe, il y a 4 techniciens, donc un technicien par massif. Il y a 4 massifs sur le territoire. Et puis après, on est 2 chargés de mission permanents. Julien qui travaille plus sur le pastoralisme et l'élevage, moi. Et puis après, on a un chargé de mission aussi qui travaille sur l'agriculture bio. Et on va être rejoint à partir du mois de mai par une chargée de projet, Tiffaine, qui va travailler sur l'apiculture.
Toi et ton équipe, votre rôle, c'est vraiment de faire le lien entre ces deux problématiques-là, environnement et agriculture. J'imagine que ces deux milieux-là ont leurs propres contraintes, les contraintes agricoles, les contraintes environnementales. Comment on fait pour les concilier ? Parce que j'imagine que parfois, elles se contredisent.
Alors oui, bien sûr, parfois ça peut se contredire. Après, en général, l'agroécologie, le but de l'agroécologie, c'est quand même d'avoir une agriculture qui soit à la fois performante d'un point de vue économique, social et environnemental. Donc, à partir de là, on arrive parfois à se retrouver sur le côté économique, parce que le but, notre but, c'est d'avoir une agriculture qui préserve les milieux, mais évidemment qui s'en sorte. Le but, c'est pas que les agriculteurs ne s'en sortent pas. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de discussions, beaucoup de comprendre les besoins des agriculteurs, leurs attentes, et nous, de notre côté, savoir expliquer nos besoins et nos attentes et nos enjeux pour bien arriver à se comprendre et là, comment trouver un terrain d'entente et un projet commun, en fait.
Figure du parc national des Cévennes, nous étions en compagnie de Viviane de Montaigne, chef de pôle agro-environnement. Le Festival d'Olt revient au Blémard pour sa 6e édition et cette année encore, le Rue de Boycrou vous prépare un programme tout feu tout flamme. Sébastien Kuhn, il est le coordinateur de ce festival.
C'est 3 journées de spectacles d'art de rue et 3 soirées concerts sous chapiteau, donc les arts de la rue dans le village. En concert, on est donc sur des musiques actuelles, pas de tête d'affiche. Première soirée un peu plus familiale avec Thomas de Pourquerie avec son projet Fun Pourquerie. La Napoli aussi qui fait la tarentelle endiablée. Le vendredi, on est sur une soirée plutôt rock avec donc en rock Ghost Wolves et nos amis Derin et Golem. Et puis touche de hip-hop avec Schuller's Division. Et le samedi, on va aller voir plutôt du côté des musiques du monde avec Indianizer et Santa Machete, hip-hop avec Altarba, Senbei et Droning Dogs et Malatesta. Et puis enfin, voilà, donc 6 concerts par soir, 5 groupes à chaque fois. Et puis programme d'art de rue avec un mix entre des compagnies qu'on a accompagnées à la création, qui présentent des spectacles, et puis d'autres spectacles qu'on a vus, avec un début de festival autour d'une randonnée spectacle sur les clochers de Tourmente. Et puis donc un début de festival dans les rues du Blémard avec Vivande et Fugace le jeudi à 16h30.
Le Festival d'Olt, c'est aussi des animations de rue et du théâtre, des rues remplies de dragons. Et cette année, c'est la thématique qui a été retenue par l'équipe des bénévoles, avec au programme des bêtes légendaires qui prendront vie grâce à Sophie Arlotto. Elle est scénographe.
Ça parle à tout le monde, les dragons. Enfin, tout le monde a une image en tête et des rêves. On voit partout dans les films, dans les livres. Ça, c'est mystérieux et à la fois un peu féerique et surtout très poétique. Peu sauvage aussi, donc je pense que c'est ce qui a emballé les gens. On va développer un univers coloré, chatoyant, chaleureux sur le site du festival et dans les rues du Blémard. Plein de couleurs vives, des flammes, des écailles, des griffes.
Le Festival d'Olt s'installe jeudi prochain et pendant 3 jours dans la rue, au théâtre et sur les chapiteaux du Blémard. C'est une saison haute en couleurs qui s'ouvre à l'Opéra. Je vous invite à découvrir son programme 2019-2020, menu riche entre classique et moderne. Tout ceci pour attirer un plus large public, sans oublier quelques innovations technologiques. Un mot pour qualifier cette nouvelle saison 2019, Valérie Chevalier, directrice de l'Opéra Orchestre National de Montpellier-Occitanie.
La joie toujours de faire découvrir au plus grand nombre ce qu'on fait. Voilà, ce qui nous meut, ce qui nous anime.
Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce programme ?
De la passion, de l'éclectisme, du partage, des croisements, voilà, tout ça à la fois, et évidemment de la grande qualité.
Alors, est-ce que l'objectif, c'est aussi de démocratiser l'opéra, de se détacher de cette image un petit peu élitiste ?
Ce n'est que ça, mais évidemment. C'est-à-dire que nous, on a envie de faire partager à tout le monde, de leur dire, mais écoutez, rentrez dans ce bâtiment, c'est pas élitiste, vous n'avez pas besoin non plus d'être riche, il n'y a plus de code particulier, enfin, rentrez et venez juste vous émouvoir avec nous.
Et justement, pour y contribuer, vous avez mis en place une nouveauté, c'est un pass.
Alors, nous avons mis en place un pass qui s'appelle le Moon Pass, donc Montpellier Opéra Orchestre National de Montpellier, qui est un pass illimité pour les moins de 30 ans, qui permet à des jeunes, pour 60€, de tout voir. C'est-à-dire que vous achetez un pass. Alors, on a fait aussi Moon Pass, après on a fait demi-lune et on a fait aussi quart de lune, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'Erasmus. Et les Erasmus, ils aiment bien tout grignoter. Donc, on a énormément aussi de jeunes étrangers qui passent, ou des touristes, ou des jeunes étudiants qui restent là pour plusieurs mois.
Et dans le programme aussi, on retrouve cette accessibilité, puisqu'on a autant des classiques que l'aspect moderne.
Alors, on a non seulement des classiques et de la musique contemporaine et de la musique électro, mais également tout ça en même temps. Et aussi des choses très populaires. On a du jazz, on a de la pop avec Alain Chamfort, enfin vraiment du baroque. Enfin vraiment, on a tous les styles sont abordés.
Quels seront les défis pour cette saison prochaine ?
Les défis, c'est toujours d'avoir, à la limite, de refuser du monde, quoi, d'avoir toujours les salles pleines et de dire, peut-être qu'on est obligé d'ajouter des représentations à la saison d'après, mais on est déjà à 280 levées de rideaux, ce qui est très, très bien. Mais c'est vrai que le défi, c'est venez nombreux, quoi, venez tous, venez en famille, venez entre amis. Moi, l'idée, c'est que toutes les générations, tous les milieux se côtoient et échangent et puissent s'émouvoir ensemble, en fait.
Et la petite pointe pour finir, c'est l'aspect technologique. Donc vous mettez pour les 40 ans en place 40 podcasts, c'est une première.
Ouais, c'est une première, ça s'est jamais fait. Donc en gros, c'est toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser. Voilà, on répondra à tout, nos équipes techniques, administratives, les artistes, enfin vraiment tout le monde. Le public aussi sera sollicité, les ouvreurs, enfin voilà. Donc toutes les questions auxquelles les gens n'ont pas forcément de réponse ou des questions qu'ils n'osent pas poser.
Comme les questions tabous ?
Les questions tabous, on parlera des questions tabous. Le trac, l'argent, tout.
C'était Valérie Chevalier, directrice de l'Opéra Orchestre National de Montpellier-Occitanie, au micro d'Anna Etchebarn pour RCF Maglonero. Et bien voilà, c'était une semaine d'actualité en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Merci à toutes les radios qui ont bien voulu participer cette semaine à l'élaboration de ce magazine d'information. Retour dès la semaine prochaine de ce magazine. D'ici là, passez un très très bon week-end. N'oubliez pas d'aller voter. Et au passage, bonne fête des mamans. C'était le magazine régional, le carnet de région, l'actualité en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.